Mais on pourrait aller dans un endroit encore plus adapté. Alors à ce moment-là, la vie communautaire avait déjà commencé avec quelques-uns. Pierre habitait, il vivait avec deux jeunes hommes, et c'était comme ça. Pierre, quand il était là, il partageait ses idées, ses intuitions. Et à l'un d'eux, il dit un petit déjeuner, « à Bethléem, nous étions au pied du Seigneur, comme Marie-Madeleine, maintenant il faut aller à Paray-le-Monial pour aller au cœur. » Alors ce qui est étonnant, c'est que le Seigneur, souvent il donne des confirmations, c'est-à-dire voilà, par des paroles, par des événements. Et donc ce frère, Hervé Marie, qui était un jeune converti à l'époque, et enfin, qui retrouvait la foi catholique, et était en train de lire ce très beau livre que j'ai déjà évoqué hier de Catherine de Sienne, Le Dialogue. Enfin, ce livre, ce sont les paroles de Jésus que Jésus lui a dites au XIVe siècle lorsqu'il est apparu. Et donc, c'est un livre très connu qu'on appelle Les Dialogues. En fait, c'est le dialogue de Sainte Catherine de Sienne. Et justement, il était en train de lire ce livre. Et cette parole que Pierre lui a dit, il faut aller de passer des pieds au cœur, lui a rappelé un passage qu'il venait juste de lire dans ce livre. Précisément le passage où le Seigneur parle des trois degrés. Alors hier, je vous ai parlé des trois degrés du cœur, mais ce n'est pas les mêmes trois degrés. Là, c'est les trois degrés de la vie spirituelle que le Seigneur Jésus explique à Sainte Catherine de Sienne en disant qu'il y a trois degrés. Le premier degré, c'est d'aller à ses pieds, le second sur son cœur et le troisième sur sa bouche. Alors les théologiens, les gens qui ont expliqué ça, expliqueront que le premier degré, c'est vraiment l'étape de la conversion. Hein, c'est l'étape de ce qu'on appelle la voie purgative, la purification, tout ce temps très long de notre vie où nous devons nous laisser. Sur son cœur, c'est vraiment la voie illuminative, là où on fait cette expérience de l'amour miséricordieux. Et alors sur la bouche, ça sera pour le final, c'est vraiment la voie unitive, l'union à Dieu totale. Alors, toujours est-il que Pierre lui-même, entendant ce que ce frère lui a dit, a été encouragé. Et Pierre dira, alors je le cite, en 1974, nous sommes allés à Vézelay, c'est très bien Vézelay, c'est Sainte-Marie-Madeleine, c'est la conversion. On est au pied du Seigneur et on se convertit. Mais après, je disais, on se convertit, c'est très bien les pieds du Seigneur. Bon, c'est bien les pieds, enfin, quand même. Eh bien, il y a peut-être un endroit encore mieux placé, c'est sur son cœur. Alors j'ai dit, eh bien, on devrait aller à Paray-le-Monial, on y refera nos forces dans l'adoration, dans le cœur à cœur, avec le Seigneur. Alors ça, c'était très bien. Donc les gens de l'Emmanuel, on était d'accord, mais les autres, alors comme je vous l'ai dit rapidement déjà, à cette époque-là, personne ou très peu de gens connaissaient Paray-le-Monial. Ce rassemblement était programmé pour 1975, qui était le 300e anniversaire des grandes apparitions. Et je vous ai dit hier qu'aucun évêque français, il n'y a aucun pèlerinage, il n'y avait plus personne. Il y avait deux chapelains que j'ai bien connus, qui étaient très gentils. Hein, un qui s'appelait Bonnet et l'autre Blanc. Bonnet Blanc et Blanc Bonnet. Mais ils étaient super. Sauf qu'il y en a un qui était psychorigide et l'autre qui était kleptomane. On les a mis là parce que c'était des bons prêtres, mais on ne sait pas où les mettre. Quoi. Bon, c'était particulier. Mais ils étaient super, pareil. Mais sauf que ce n'était pas évident. Vous voyez, Paray-le-Monial, c'était le rebut. Là où on était, ce où on ne sait pas. Mais... Et puis Jésus, ben, il était là. Et alors, il y a Pierre, les autres responsables du comité, me disent, mais pourquoi là, Paray-le-Monial, on ne connaît pas le cœur de Jésus, ça fait ringard. Voilà, c'est bon, tout ça. Pierre était à la fois très déterminé et assez diplomate. Bon, il a pu, mais surtout par la Providence. Donc, c'est là, quelqu'un d'un bout de prière de province a dit, oui, c'est génial. Là, c'est... Et puis, du coup, ben, ça s'est fait. Alors que tout était contraire. Les gens étaient d'accord, ce qui fait que pendant une, deux, trois années, on a animé ensemble, avec d'autres communautés, les rassemblements. Et on est arrivé ici en 1975. Et il y a eu deux sessions. Et ça fut déjà extraordinaire, parce que cette petite ville, depuis, s'est beaucoup transformée. Alors c'était encore beaucoup plus, comment dire, charismatique qu'aujourd'hui. C'est-à-dire que, non seulement dans la journée, mais la nuit, les gens allaient chanter dans les rues de Paris moniale, et je vous dire, les bourguignons, les parodiens, c'est quand même des gens assez carrés. Au début, ils trouvaient ça un peu bizarre. Enfin, il y en a qui ont été très contents rapidement, c'est les commerçants. Parce que ça, ça, surtout pendant les sessions d'été, ça fait du bien à la vie. Mais les parodiens, et puis alors c'est toujours pareil, Jésus n'est jamais prophète dans son pays. Le corps de Jésus était très mal vu à Paris moniale, pour différentes raisons. Bon, toujours est-il que Pierre a, voilà. Donc, et puis, bon, je pourrais raconter, si j'avais le temps, la Providence. Bon, on arrive à Paris moniale, mais... et puis donc, à ce moment-là, Pierre... Alors, ce qui est bien, c'est que ce... Quand même, ce père, c'était lequel? C'est le père Bonnet. Il était bon. C'était peut-être un bon père, par ailleurs. Il était cryptomane. Bon, il était malade. Mais lui, il était spirituel. Et c'est lui qui a dit à Pierre, mais il était content qu'on fasse revivre. Là, on était moins nombreux. Là. C'était dans un lycée. Et on est ici. Et
le chapiteau, là.
Alors, c'était l'année suivante, le chapiteau. Mais il y avait effectivement, les premières années, c'était ici, là, les chapiteaux, tout se passait là, parce qu'on était une session de 800 personnes, puis très vite, ça a grandi, on est parti ailleurs, enfin, un peu plus loin. Et lui, le père Bonnet, mon cher kleptomane ami, parce que je l'ai bien connu, il a dit à Pierre, mais c'est génial que vous êtes là, c'est le 300e anniversaire des apparitions. Enfin, lui, il a fait le rapprochement. Et là où le Seigneur répond, c'est que, puisque c'est l'endroit du dépôt où on mettait tout le rebut, les bons prêtres ou même les bons évêques dont on ne savait plus quoi faire, est arrivé un très bon évêque, mais qui lui aussi était malade, qu'on avait mis là parce qu'on ne savait pas où le mettre. C'est Monseigneur Maurice Guédon, qui était nommé évêque très jeune, dans le Doubs. Et c'était un homme très sensible. Originaire de Dijon, un très grand pianiste, pas aussi grand que le père Jean-Rodolphe Carr dans sa jeunesse, mais un très bon pianiste, quelqu'un de très sensible, et qui avait été très bouleversé par la crise énorme de l'Église dans les années 70-75, et il y avait de quoi. Et il était auxiliaire, il n'était pas évêque, il était évêque auxiliaire, il était nommé assez jeune, à 35 ans, à l'époque c'était jeune pour nommer un évêque. Et dans les années 70-75, il a fait une dépression. Ça peut arriver à tout le monde, même à un prêtre, même à un évêque, même à... Bon, des burn-out, aujourd'hui, on en parle beaucoup. Et donc, ses supérieurs, ils ont dit, on va le mettre à Paris moniale. Hein. On va le mettre à Paris moniale, parce qu'il n'y a plus personne. Et donc, il a été nommé, c'est bien, il a été nommé directeur de pèlerinage. Mais la providence est bonne, parce que cet homme était très bon aussi. Et... entre-temps, nous sommes arrivés avant, l'été, lui est arrivé quelques mois après, et lui-même, il a fait l'expérience, alors pas dans les manuels, dans d'autres groupes, il a fait l'expérience de l'effusion d'esprit dans une prière. Et ça l'a remis à neuf. Il a retrouvé une joie, peu à peu, etc. Et donc, il est resté ici pendant plusieurs années, comme supérieur des chapelains. Il a beaucoup encouragé Pierre et la communauté, et voilà... Et donc, vous voyez là, comment la providence, avec les faibles que nous sommes, un pauvre évêque et dépressif qui, après, bon, a un remarque. Et c'est pour montrer que le Seigneur passe au-delà de nos faiblesses, de nos misères, et qu'il se sert de toutes choses. Mais c'est parce que Pierre a eu cette idée-là. Bon, et puis alors, l'autre chose que je passe plus tard, mais qui est importante, c'est là aussi, là nous sommes en 64, alors les sessions se sont développées chaque année, de plus en plus, et puis Pierre avait des idées géniales. Parce que donc, au point de départ, il fallait aller à la basilique, on avait les lèvres là-bas, il fallait traverser toujours la Bourbasse, et au bout de quelques années, on a eu l'idée d'aller au Moulin Guiron, de l'autre côté là-bas. Et puis, c'était très long de passer, et puis donc Pierre a eu l'idée de faire un pont provisoire, parce qu'il n'y avait pas le pont, il y en a coincé, vous voyez le pont qui passe en face là. Et donc Pierre connaissait tout le monde, avec des généraux de l'armée qui serraient, ils s'étaient prêtés pendant un été, et ça a été génial, parce qu'on gagnait 20 minutes, et après, le maire a eu l'idée de faire la même chose. Donc le maire a fait un pont en bureau, et Pierre avait des tas d'idées géniales, comme ça, il était très pratico-pratique, il voyait les choses. Deuxième chose, en 86, on est 10 ans plus tard, c'était déjà Pierre, la fin de sa vie, déjà, et en 86, le pape Jean-Paul II avait programmer un voyage apostolique en France. Alors, il faut dire que nous, Pierre Coursat, à côté des mails, on connaissait un peu Jean-Paul II. On avait déjà été reçu plusieurs fois, participé à des messes privées à quelques-uns. C'était un pape polonais très priant. On savait que les Polonais, que lui en particulier, avaient beaucoup le cœur de Jésus. Et les évêques français n'avaient pas pensé, pareil, rien n'était pas assez important, pour que, inviter, parce que le pape ne se rend que là où les évêques l'invitent. Donc il n'avait pas été invité à Paray-le-Monial. Bah, Paray-le-Monial, c'est le trou. Bon. Donc, mais Pierre a dit, mais il faut inviter le pape, il faut inviter le pape. Alors on s'est débrouillé, parce qu'on avait, quand même des circuits. On avait des circuits, et donc, pour faire passer une lettre au pape, parce qu'on savait qu'il attendait que ça. Mais il ne peut pas venir s'il n'est pas invité par le président de la République, par le chef d'État et par les évêques. Donc on l'a fait passer, mais surtout, il faut quand même que, comme Pierre aimait beaucoup l'Église, etc., il en a parlé à l'évêque Jotin, qui était le 10, qui aimait beaucoup le cœur de Jésus. Et donc, finalement, ben, le pape, dès qu'il a eu la vie, ben, il a dit « Je viens, bien sûr que je viens ». Alors, parce qu'il devait venir à Lyon, à Ars, à Annecy...
Thésée,
c'était pas prévu. Il y a deux étapes qui n'étaient pas prévues. Et c'est le pape qui a rajouté au dernier moment « Je vais venir à Paray-le-Monial et à Thésée ». Vous voyez, c'est quand même extraordinaire. Et ça, c'était en octobre 86. Et il se trouve que entre-temps, ce bon évêque aussi, Mgr Le Bourgeois, qui n'était pas du tout favorable au départ au renouveau charismatique, a vu qu'en 10 ans, on s'y est passé 10 ans entre 64 et 85, que grâce aux sessions d'été, Paray-le-Monial, le sanctuaire avait déjà été renouvelé. Et c'est là qu'il a eu l'idée de confier, car c'était un risque, hein, parce que l'Emmanuel et nous, les premiers prêtres, je vous dis, hein, moi je me suis ordonné en 85 pour cette année-là, et les premiers c'était l'année d'avant, donc on n'avait pas beaucoup de prêtres de la communauté. Eh bien, il fallait des prêtres pour animer. Et donc il a accepté, il a rencontré Pierre Coursat, et d'abord pour un an, à l'essai, de confier l'animation des directions du périmètre en 85. Et moi qui étais à Paris et qui avais différentes responsabilités, alors c'était moi qui étais nommé pour faire le lien, et j'étais l'adjoint de Mgr Guédon. Mais il se trouve que comme, entre-temps, ben, le pape avait décidé, il y avait un comité d'organisation de Cézanne, et moi j'ai été bombardé avec d'autres prêtres beaucoup plus expérimentés du diocèse, très durs, qui n'aimaient ni l'Emmanuel ni le cœur de Jésus, et avec un jeune laïc de la communauté, on participe à toutes les réunions. Au début, ce qui était prévu, c'était une kermesse, la messe où le jeune là, il était diacre, hein, c'est lui qui a lu l'évangile qu'il a chanté, si vous regardez. À côté du monsieur en blanc, c'était le jeune Gabriel qui a chanté l'évangile. Et moi, pendant un an, là, qui était jeune prêtre parisien, ici, c'était pas très bien vu, bah, toujours est-il que grâce au Seigneur, comme Pierre nous avait appris à être déterminés en étant, essayant d'être humble, on a dit, mais non, on ne peut pas faire un lâcher de ballon, on n'est pas contre, mais c'est pas ça. Le pape, il ne vient pas pour un lâcher de ballon, il vient pour le cœur de Jésus. Bon, je passe les détails, c'est assez compliqué, mais peu à peu, on a eu une très belle messe. C'est extraordinaire. Et alors, on a attendu le pape, parce que ce jour-là, alors le pape allait d'abord à Thésée, il devait venir en hélicoptère. Ce jour-là, il y avait un brouillard pas possible, parce que dans la région, parfois il pleut, parfois il y a du brouillard. Ça arrive assez souvent. Et ce jour-là, il y avait un brouillard pas possible, et en général, le pape a toujours tard quand il va quelque part, mais bon, là. Et puis, donc, il n'a pas pu venir. Il a dû venir en voiture, donc c'est un peu plus long, c'est pas très loin. Donc on attendait, puis à un moment donné, on nous dit « Le pape arrive !» Alors tout le monde extraordinaire. Et puis donc, finalement, très très belle messe.
Le soleil s'est levé,
l'arc-en-ciel aussi s'est levé, comme hier au cimetière. Et très belle messe. Et le pape avait choisi de célébrer la messe avec les têtes du Sacré-Cœur, et spécialement pour les familles. Et à la fin de la messe, il est venu en pèlerinage, c'était un homme qui était très francophone, qui aimait beaucoup les saints français. Donc, tout avait été organisé, bien sûr. Et donc, il est venu prier dans trois endroits très importants où vous avez été prié, et vous irez si vous n'avez pas eu le temps. La basilique, on a déjà été. Hein, il y a à la fois Dieu paroissial et puis Dieu sanctuaire, la chapelle de la Visitation et la chapelle de la Colombière, on va dire la messe, qui sont les trois lieux saints. Et à la chapelle de la Visitation, il y avait les visitants dignes, alors il y avait Monseigneur le Bourgeois, Monseigneur Guédon, et puis il y avait les chapelains. Enfin, les chapelains, à cette époque-là, c'était moi. Et puis il y avait le Père Carte déjà, il n'était pas pareil, il était diacre, il n'était pas encore ordonné. Oui, ça c'est Pierre Boursat. Et donc, alors ce que je n'ai pas dit, c'est qu'à la fin, le pape avait beaucoup d'humour. Il avait été un peu informé de toutes les difficultés qu'il y avait eu dans l'organisation. Parce que je ne vous dis pas, nous on avait dit, ils avaient prévu des trucs pas possibles, comme on disait dans les années 68. Et on avait dit, on avait dit, ça ne se pourra pas possible. Et quand le cérémonier du pape est venu voir, il a dit, mais ça, on ne peut pas faire ça, on ne peut pas faire ça, ben, beaucoup de choses ont été changées, telles qu'on l'avait annoncé. Et à la fin, avec beaucoup d'humour, le pape a dit, je remercie Emmanuel. Alors, on ne sait pas si c'est la communauté d'Emmanuel ou Jésus-Emmanuel, en tout cas, c'était. Et à la fin.
Dieu avec nous.
Dieu avec nous, oui. Et quand il a. Et alors là, Pierre était là. Pierre Boursat était là. Il avait déjà renoncé à sa charge. Il y avait le nouveau modérateur. Et on était quelques-uns à côté d'Emmanuel, 4-5. Et à la fin, après avoir parlé avec les visitants dits, il a salué ce vieux monsieur très fatigué. Et Pierre Boursat. Et il lui a redit merci d'avoir fondé l'Emmanuel. Oui, donc Pierre était diminué, mais vous voyez sa détermination, c'est grâce à lui. Et alors, et le pape après, alors vous avez ceux qui habitent là, il y en a qui sont à l'hôtel du prieuré, hein. Oui. Bon, vous voyez, l'allée, depuis, il a pris son nom, parce que le pape, il est passé là. Et alors, ce que je n'ai pas dit, c'était que l'hôtel du prieuré, il était en construction. Parce que Pierre aussi, il était génial, il disait, comme ça se développait, il n'y a pas assez de place pour les pèlerins. Donc à ce moment-là, il y avait un ami, quelqu'un qu'il connaissait, qui avait beaucoup d'argent, un mécène, et il a construit ce pour les pèlerins, et ça a servi de sacristie pour les évêques. Il y avait 60 évêques et pères abbés qui ont traversé par le pont la Bourdasse, ça pour dire les idées de Pierre. Bon voilà, donc ça. Ça fait combien de temps déjà?
Là, ça fait que
35 minutes. Ah bon? Il faudra. Alors, non mais c'était important quand même de vous dire ça.
Oui.
Bah, évidemment, on ne verra pas du reste. Hein. Alors, de quoi on va vouloir parler alors? Oui, mais alors quand même, ce qui est assez étonnant, c'est que Pierre, comme on l'a dit hier, parlait justement, lui, il avait une idée très particulière, très juste du cœur de Jésus. Comme on l'a dit à plusieurs reprises, dans le contexte des apparitions, il y a plusieurs raisons pour lesquelles le cœur de Jésus était mal vu. Bon, il y a eu des récupérations politiques à l'époque, vous savez, entre le corps de Jésus qu'on présentait comme symbole royaliste et puis les républicains, donc en France c'était très compliqué dans la fin du XIXe siècle et entre les guerres. Et puis il y a le fait que, bon, ben voilà, ça paraissait milieu à beaucoup de personnes. Mais toujours est-il. Quand Jésus veut renouveler un lieu, c'est pas vrai qu'à Paris-Monial, c'est toujours dans un contexte sociologique politique. Or, pour revenir très rapidement en arrière au XVIIe siècle, le XVIIe siècle, au moment où Jésus est à Paris à Marguerite-Marie, on l'a déjà dit, c'était un moment de grande crise. C'est le moment où, du point de vue politique, il y avait les guerres de religion qui allaient en France, qui allaient diviser ensemble la France. C'est le moment où toutes les idéologies, les idées athées, rationalistes, ont été développées par un certain nombre de philosophes, puisque le siècle suivant, c'est celui qu'on appellera le siècle des Lumières, mal nommé. C'est-à-dire de tous les philosophes qui ont abouti finalement à des doctrines qui prônent la mort de Dieu, quoi, l'athéisme. Et donc c'est vraiment à ce moment-là que Spinoza, qui a écrit l'éthique, il l'a écrit au moment des apparitions. Le livre est paru juste après. Donc c'était vraiment un bouillonnement, surtout en France, qui est toujours à l'avance pour les bonnes et pour les mauvaises choses. Donc c'est à ce moment-là qu'on bouillonnait. Et du point de vue religieux, c'était le protestantisme était arrivé, donc c'était une grande division dans l'Église, et avec aussi une grande influence politique. Grande division, c'est à ce moment-là que les jésuites sont arrivés, que les visitants guides sont arrivés, et... je vois un petit coup. Et donc, et puis il y avait surtout, ce dont on a déjà parlé, le jansénisme. Donc cette doctrine très très, voilà, très, très mauvaise dont on a parlé. Et c'est la raison pour laquelle, dans ce contexte, que je n'ai pas le temps de développer, j'aurais voulu le faire, mais je n'ai pas le temps, c'est pour ça que le Seigneur a tellement insisté, et Pierre aussi le faisait, sur le fait que le message de parrainemonial était nécessaire à un monde qui s'était refroidi. Jésus est apparu à parrainemonial à Sainte-Marie, à une époque où le cœur de l'homme s'était refroidi, au point d'affaiblir grandement la foi et la ferveur des chrétiens. Donc Jésus voulait communiquer aux hommes le feu brûlant de la charité divine que son cœur ne pouvait plus contenir. Et donc finalement, les apparitions de Jésus à Sainte Marguerite Marie, c'est un cri d'amour. C'est Jésus qui a cri d'amour au monde en disant « Est-ce que tu acceptes de m'aimer? Est-ce que tu accueilles mon amour ?» Rappelant que le plus grand péché de l'homme, c'est l'indifférence, l'oubli de la charité. Et Jésus voulait aussi nous faire comprendre que cette immense soif d'amour qu'il éprouve pour tous ne peut être étanchée que si nous prenons conscience de cet amour fou que Jésus nous a révélé par son incarnation, on en a parlé hier, et manifesté au plus haut point sur la croix en livrant sa vie pour nous sauver. Et donc, pour résumer, je dirais qu'en révélant son cœur à Sainte Marguerite Marie, Jésus a voulu nous manifester l'importance de sa miséricorde. Parce que, encore aujourd'hui, c'est comme ça pour beaucoup de chrétiens, mais ça l'était beaucoup plus à l'époque de Pierre et d'autres, et ça, c'est des conséquences négatives du jansénisme. Beaucoup de chrétiens... Alors là encore, même si les choses se sont renouvelées, je vous ai dit que quand il était petit, Pierre ne supportait pas le sang, etc. Mais la plupart... Encore aujourd'hui, mais surtout il y a 50, il y a 100 ans, la plupart des représentations du Sacré-Cœur sont des représentations sanguinolentes, doloristes, qui... Mais, bon, ça c'est beaucoup plus récent, où on insiste sur la douceur, sur la beauté, sur la lumière. Et donc, mais c'est une hérésie dont Pierre parlait, souvenez-vous de la première, premier soir, parce que beaucoup de chrétiens croient que c'est parce que Jésus a beaucoup souffert sur la croix qu'il nous a sauvés. Mais ce n'est pas vrai. Ce n'est pas parce qu'il a beaucoup souffert. C'est parce que Jésus nous a beaucoup aimés dans ses souffrances que nous avons été sauvés. Ce n'est pas la souffrance du Christ qui nous sauve, c'est l'amour qu'il a mis. Vous comprenez la différence? Et c'est ça, le passage, si vous voulez, d'une religion doloriste, légaliste, coincée. Et c'est ça qui... Et Pierre était tout à fait cela. Donc là, il y a beaucoup de citations, je ne vais pas vous en donner, mais il y en a plusieurs. Et Pierre disait « Ce cœur de Dieu qui est devenu un cœur de chair a souffert pour nous jusqu'à l'éternité. Cet amour qui a souffert de voir et qu'il était incompris et qui étouffe de l'amour, qu'il voudrait donner à chaque âme qui le refuse, demande de se déverser au moins dans celle qui accepte de comprendre et qui accepte de le recevoir. » Une autre... Il y a vraiment un désir du cœur du Seigneur qu'on vienne auprès de lui et qu'il nous transforme, surtout à une époque où de plus en plus les personnes ont une charité qui s'éteint. Pour reprendre une parole de Matthieu 24, il dit « L'amour se refroidit » et Pierre ajoute « Il faut vraiment que cet amour nous soit redonné, car il n'y a rien de mieux et de plus efficace que demander au cœur du Seigneur, qui est un brasier ardent de charité, qui nous donne cet amour. » Vous voyez ? Donc c'est tout ça qui peut un peu... Parce qu'il y a des... Vous voyez, déjà ici, on était quelques-uns, quelques dizaines, mais on était de plusieurs pays. Là, je viens de voir une dame allemande que je n'avais pas vue qui vient de partir parce qu'elle a un train. Les personnes de Belgique, de Suisse. Il y a des gens de toutes les provinces. Et donc depuis 1975, grâce aux sessions d'été à toutes, le Seigneur est heureux de rassembler sur son cœur à parrainemonial des gens de conditions sociales très différentes, des petits, des grands, de toute couleur de peau, de toute race, de toute opinion politique, pour venir ensemble se plonger dans le cœur de Jésus. Et c'est aussi, là aussi sans insister, la raison pour laquelle Pierre, à la suite du pape Pie XII, dont je vous ai parlé un petit peu hier de l'encyclique Orietis Aquas, insistait beaucoup pour dire que le cœur de Jésus, ce n'est pas une dévotion, c'est beaucoup plus qu'une dévotion. Vous savez, aujourd'hui, une dévotion, c'est un peu pareil, c'est pas mal une dévotion. Une dévotion, c'est voilà, on a sa vie, puis ensemble, ben voilà, j'ai un petit fervorino, voilà, le cœur de Jésus, c'est un petit plus, c'est la cerise sur le gâteau. Mais non, Pierre expliquait que c'est pas ça, c'est le cœur de la vie chrétienne. C'est. Alors, là aussi, deux ou trois citations. Alors, ça, c'est la citation qu'on a eue. Non, je ne vais pas la reprendre. En 82, Pierre disait : le Sacré-Cœur est bien davantage qu'une simple dévotion. Pareil, c'est un centre mondial. Il faut comprendre la force et la puissance que le Seigneur met dans cette action. Si bien que ça va rayonner sur le monde, on aura des foules qui viendront pour se réchauffer auprès du cœur du Seigneur. Et donc Pierre avait conscience que le cœur de Jésus, c'est le cœur de la vie chrétienne, c'est le cœur de l'âme. Et ça c'est essentiel, alors je n'ai pas le temps de développer, mais c'est quand même en cela qu'il a contribué avec d'autres à renouveler, avec la communauté d'Emmanuel et beaucoup d'autres, ceux qui ici sont à Paray-le-Monial, à renouveler peu à peu non seulement l'image aujourd'hui dans le monde politique ou artistique, voilà, on regarde son image. C'est pas l'image du cœur de Jésus, mais c'est vrai. Et donc il l'a complètement rafraîchi, le cœur de Jésus, puisque ce qui n'était pas le cas avant, c'est des foules et beaucoup de jeunes, beaucoup d'enfants qui viennent. C'est, si on était, c'est quoi, c'est 20 000 personnes maintenant, à peu près chaque été, voire plus, 20-25 000 personnes. De beaucoup de pays différents, donc beaucoup d'enfants, beaucoup de jeunes, et vous voyez, donc c'est des gens qui n'ont pas fait l'expérience de la foi, qui ne sont pas baptisés, des gens qui sont très chrétiens, mais qui, voilà, des chrétiens classiques, et puis des chrétiens de tout style. Et Jésus veut, et il y a eu à chacun, pour tout le monde, des grâces énormes et des conversions très importantes.
On prend un petit chant.
Cœur de Jésus, brûle en amour, embrasse-nous par ton esprit, que nos cœurs soient semblables aux tiens, que nous brûlions de charité.
Alors, pour faire le lien avec ce que je viens de vous dire et le jansénisme, je voudrais quand même vous parler, prendre un exemple concret. En lien, ce que je vous ai dit que Pierre, bon, enfin, j'aurais voulu développer ça, mais j'ai pas eu le temps, avait beaucoup d'amour pour lui. Je vous ai parlé de quelques saints qui l'aimaient beaucoup, donc ça intéresse l'enfant Jésus, mais pour beaucoup d'autres. Vous savez que dans le message de Paray-le-Monial, Jésus a demandé à Sainte Marguerite Marie, voilà, lui a manifesté, enfin, lui a demandé de, voilà, qu'elle prie et qu'elle vive leur sainte. Et lors de la grande apparition 1664, il s'est plaint de l'indifférence et du mépris. Et donc, elle lui a demandé vraiment de faire en sorte de réparer tous ses péchés. Mais le problème, c'est qu'avec cette vision très janséniste, comme je vous l'ai dit pendant longtemps, on avait vu ça de façon volontariste et doloriste. Et c'est là où, au XIXe siècle, beaucoup plus tard, que la petite Thérèse, elle aussi, qui aimait beaucoup le cœur de Jésus, mais elle disait, je n'aime pas le cœur de Jésus comme les autres. Parce que Pierre comme la petite Thérèse, parce qu'il aimait après, mais il était très proche d'elle, et il avait la même sensibilité, elle ne supportait pas cette vision doloriste. Et donc, Sainte Thérèse a complètement modifié, parce que elle, quand elle faisait des petits sacrifices, et Pierre nous invitait à faire des petits sacrifices, c'était pas pour se faire du mal, c'était pour faire plaisir à Jésus. Parce que faisant des petits sacrifices par amour, c'était pour sauver les âmes. Et donc, Finalement, ce que Thérèse, là aussi je le synthétise en quelques phrases, ce que la petite Thérèse a porté à la foi catholique et au culte du cœur de Jésus, c'est de comprendre que ce n'est pas dans le volontarisme et dans la confiance et dans l'abandon à Dieu, en se laissant aimer par le cœur de Jésus que l'on est transformé, et qu'il fallait le consoler. Et ça rejoint ce qu'on disait avant-hier le Père Casse, que disait hier le Père Gabriel. Finalement, pour résumer le message de parrainemonial, ce que Jésus demande à Marguerite Marie et nous demande, c'est de lui rendre l'amour. C'est cela la consolation. Saint Thérèse de l'Enfant Jésus a actualisé et enrichi le sens de la réparation par sa spiritualité centrée sur le mystère de la consolation. Et se sentant incapable de s'offrir à la justice divine, comme on le faisait à son époque, pour racheter les âmes, on voulait racheter les âmes, elle a eu une intuition le dimanche de la Trinité, le 9 juin 1895, 2 ans avant sa mort, de s'offrir complètement dans un acte d'offrande à l'amour miséricordieux qu'elle fera 2 jours après. Alors ça, c'est une révolution, parce qu'à son époque, on s'offrait à la justice divine. Et Thérèse explique que moi, je suis trop petite, je ne peux pas m'offrir. Et là aussi, il y a des tas de citations de Pierre, que je n'ai pas le temps de vous dire, mais qui dit ça, mais c'est affreux de s'offrir à la justice. Il faut s'offrir à la miséricorde. Et Pierre, comme la petite Thérèse, s'est offert à la miséricorde, a fait un acte d'offrande à l'amour miséricordieux. Ce qui était important à Thérèse, comme je vous ai dit, c'était de faire plaisir à son bien-aimé et de désaltérer sa soif d'amour. Comme elle, Pierre se confiait au cœur de Jésus pour réparer ses fautes en les jetant dans la fournaise de son amour miséricordieux. Vous comprenez ça? Je n'ai pas le temps de développer. Et je voulais dire ça parce que ça change complètement la perspective. La réparation est importante dans le message de Jésus. Mais la réparation, ce n'est pas de se faire du mal. Ce n'est pas d'être maso. Ce que Jésus veut, c'est notre bonheur, notre épanouissement. Alors, pas l'épanouissement comme les gens d'aujourd'hui veulent, hein, avec tous les coachs en tout genre d'épanouissement. C'est l'épanouissement que lui va nous donner parce qu'il sait mieux que nous ce que nous sommes et ce pourquoi nous sommes faits. Et comment nous pourrons nous épanouir humainement et spirituellement. Donc, le bonheur qu'il veut nous donner, ce n'est pas le bonheur du monde, mais c'est un bonheur vrai. Alors, il nous reste 20 minutes. C'est pas mal. Pour essayer de résumer un petit peu ce que je vous ai dit hier et aujourd'hui, à travers ce que Pierre vivait et ce que Pierre vivait avec ses frères et sœurs de communauté. Je vous l'ai dit déjà hier, mais je le répète parce que c'est tellement proche du cœur de Jésus, ceux qui ont marqué, tous ceux qui ont connu Pierre, à toutes les époques possibles, ont été marqués par son humilité. Et Pierre aimait beaucoup le cœur de Jésus, et Pierre disait, « Seigneur, apprends-nous à devenir un doux et humble de cœur. » Cela s'apprend dans les grâces d'adoration, parce que dans l'adoration, le Seigneur nous parle cœur à cœur et nous instruit doucement. Pierre expliquait aussi, « Ce qu'il y a d'important, c'est le cœur. » On est venu à parrainemonial, on croit connaître le cœur de Jésus, on croit connaître, on est déjà venu. Comment il parle de son cœur qui a tant aimé les hommes? Et il nous dit, et ça il reprend la phrase de Matthieu 11, 28, 30, c'est le seul passage de l'évangile où Jésus parle de son cœur, quand il dit « Je suis doux et humble du cœur ». Et Jésus dit, le secret, alors plutôt Pierre dit à propos de Jésus, « Apprenez de moi que je suis doux et humble du cœur ». Et vous trouverez la paix pour vos âmes. Alors, pour vous montrer comme Pierre était aussi très, très humble, mais il mettait en pratique. Et donc, sur la petite péniche où on habitait, il y avait un tout petit oratoire, on priait souvent avec lui, je vous le dirai. Et un jour, il y a un frère qui voit Pierre. Pierre était fatigué, souvent il était dans un fauteuil, dans un transat, on priait longuement. Il avait sa Bible sur ses genoux, et ce frère lui dit, « Mais Pierre, qu'est-ce que tu fais ?» Et Pierre lui dit simplement, je lis cette parole, mettez-vous à mon école, car je suis doux et humble de cœur. Ben, tu vois, c'est ce que je fais. Je suis à l'école du cœur de Jésus, j'essaie d'apprendre. C'est beau, hein? Ça, c'était Pierre. J'essaie d'apprendre. Toute sa vie, il a essayé d'apprendre. Alors là aussi, je n'ai pas le temps de développer, mais Pierre était un homme pétri de la parole de Dieu qui méditait depuis sa jeunesse, depuis sa conversion. Tous les matins, il lisait la parole de Dieu dans sa chambre. Et c'était surtout un homme, je dirais, nourri par l'Eucharistie. Il vivait, au moment où il a failli mourir à plusieurs périodes, il a quasiment toujours reçu l'Eucharistie. Quand il pouvait parler à la messe, un prêtre, il était mourant plusieurs fois quand il était jeune, je vous l'ai dit, on lui a apporté l'Eucharistie. Et c'était étonnant de voir tous ceux qui, nous aussi, qui ont connu Pierre, de voir combien il était plongé dans le mystère de l'Eucharistie. Et Pierre va nous expliquer que quand il va adorer Jésus dans le Saint-Sacrement, eh bien c'est vraiment le cœur de Jésus qu'il va contempler. Et quand on priait aux côtés de Pierre, tout simplement, il rayonnait de ce mystère intérieur qu'il habitait. C'était étonnant, et finalement, sans rien dire, il entraînait ce qu'il était devenu, vous voyez, à prier. Et donc, et à la fin de sa vie, il pouvait à peine marcher, mais quand il arrivait dans la chapelle de la Pénique ou dans une église, ça ne fait rien. Il prenait le temps de se prosterner longuement devant le Saint-Sacrement pour l'aider à se relever. Et toute la messe, il était vraiment. Donc Pierre était, je dirais, un homme eucharistique. Parce que comme on l'a dit, comme le Père Carche, je crois, l'a dit le premier jour, on ne peut pas dissocier le cœur de Jésus de l'Eucharistie. Alors ce que je voudrais vous dire, essayer de résumer, c'est que ce que Pierre a vécu personnellement, il a ensuite enseigné au monde de l'Emmanuel. Mais je pense que c'est ce mouvement qu'il a vécu, c'est vrai pour tous les chrétiens. Et Pierre a voulu résumer la vocation de notre communauté de l'Emmanuel par ces trois mots, adoration, compassion, évangélisation. La compassion, expliquait-il, est la conséquence directe de l'adoration et conduit nécessairement à l'évangélisation. Alors, ce que Pierre expliquait, c'est pas du tout un slogan. Hein. C'est pas parce que parfois, même dans la communauté, on dit adoration, compassion, évangélisation. Non, c'était vraiment un feu, un mouvement intérieur qui fait que, et ça il va l'expliquer, même si je n'ai pas beaucoup de temps de le faire, c'est une dynamique spirituelle, fruit de son expérience. Et c'est dans l'oraison silencieuse, dans la prière, que Pierre entretenait ce feu de l'amour divin qui embrasait son cœur. Il brûlait corps et âme du désir de voir la foi et la charité renouveler l'Église et embraser le monde. C'était ça qu'il animait. Et c'est ça qu'il voulait transmettre. L'adoration, expliquait-il, ouvre notre cœur à la compassion, qui est cette capacité de comprendre et à partager et à soulager les souffrances des autres. Et nous sommes alors naturellement conduits à l'évangélisation. Nous avons le désir de partager à tous ceux qui ne connaissent pas l'amour de Jésus, qu'ils sont aimés, qu'ils sont sauvés. Alors, il y a beaucoup de citations de Pierre, et il y a cette citation-là qui résume. Et ça, c'est même pas une citation, c'est des notes personnelles. Parfois, Pierre écrivait des notes pour préparer l'enseignement, donc on a retrouvé ça. Et donc, je trouve qu'elle résume bien ce que j'essaie de vous dire rapidement. Et ça, c'est Pierre qui le disait. Je cite, « L'adoration, source de la compassion, nous pousse à l'évangélisation. Jésus nous ayant fait percevoir la souffrance de son cœur, pourquoi ? Brisé par le péché et l'indifférence des hommes, on revient à Marguerite Marie, hein, nous demande d'annoncer à tous, par tous les moyens qu'il nous montre, son désir que tout homme revienne à lui. » Alors, donc Pierre, je vous le disais, le matin, il priait dans sa chambre, il n'allait pas le déranger. Il priait surtout avec son crucifix de la Joppe, le cœur, en contemplant le cœur de Jésus, il disait la parole de Dieu. En fin d'après-midi, il redescendait prier, et le soir, il redescendait, et parfois, il passait toute la nuit. Et dans tous les week-ends de formation de la communauté, comme on le fait, comme on va le faire tout à l'heure, Pierre nous disait, si nous ne commençons pas, ou si nous n'avons pas un temps de prière et d'adoration eucharistique, tout ce que nous faisons ne sert à rien, ne portera pas de fruit. Et pourtant, Pierre était un évangélisateur, quelqu'un d'actif. Mais s'il était un grand missionnaire, c'est parce qu'il était d'abord un contemplatif. Hein? C'est de la prière, de l'adoration, que vient la compassion qui nous mène au désir de la mission. Ce n'est pas l'inverse. Et alors, il insistait sur la prière, que nous, la plupart, on était jeunes, on n'avait pas l'habitude de prendre ce temps d'oraison pour l'amour. Certains, oui, mais pas tous. On était certains des jeunes convertis, on découvrait ou on redécouvrait la foi chrétienne, la foi catholique, dans un moment de grande crise de l'Église. Et on disait, et puis on était pris, on était étudiants, on travaillait, on n'a pas le temps, on ne trouve pas le temps. Et Pierre répétait sans cesse que prier, ce n'est pas perdre son temps, c'est en gagner. Et c'est vrai si vous avez fait l'expérience. Quand parfois on est surchargé de choses, on dit je ne vais pas y arriver. En fait, on patine. Et quand on prend le temps de prier, qu'on se remet à Jésus, eh bien, à ce moment-là, c'est Jésus nous donne les bonnes idées, nous donne de faire les choses, et les choses se font beaucoup plus vite et beaucoup mieux. Et la grande différence, c'est que lorsque nous agissons par nous-mêmes sans prier, c'est quand c'est le monde aujourd'hui. On recherche l'efficacité à tout prix. Mais Jésus, il s'en fout de l'efficacité. C'est la fécondité qu'il veut. Jésus nous dit, je veux porter du fruit à travers vous. Donc il y a une grande différence entre l'efficacité telle que le monde la recherche, et qu'il ne la trouve pas du tout, parce qu'on n'est pas très rentable hein, dans notre pays, pas très productif à tous les sens du terme, mais on a oublié cette notion de la gratuité et du temps donné à Dieu. Et un petit exemple que j'aime souvent, que je donne souvent parce que j'aime beaucoup, Pierre qui aimait beaucoup Saint-François de Sales, il y avait des gens d'Annecy par là, tout à l'heure, je crois qu'ils sont ici de la région. Et donc Pierre aimait beaucoup Saint-François de Sales, évêque de Genève, et en résidence à Annecy.
Fondateur de la Visitation.
Puis fondateur de la Visitation avec Saint-Jean de Chantal, et qui était un grand spirituel que beaucoup de gens venaient consulter. Et alors Pierre racontait une histoire qu'il avait lue, parce qu'il avait beaucoup lu, et un jour, un évêque vient voir François de Sales, peut-être se confesser, je ne sais pas, et selon François de Sales, lui dit, on lui demande conseil, moi je suis évêque, vous savez, je n'ai pas vraiment de responsabilité, je n'ai pas le temps de prier une heure. Comment voulez-vous que je prie une heure par jour? Et Saint François de Sales lui a répondu, bah, si vous n'avez pas le temps de prier une heure, bah, priez deux heures. Alors Pierre nous rappelait souvent, si vous n'avez pas le temps de prier une heure, bah, alors priez deux heures.
Je peux poser une question sur la prière?
Bah, peut-être après, non? Parce que sinon, on n'a déjà pas beaucoup de temps. Déjà, j'ai plus de 10 minutes. Et là, moi, donc là aussi, c'était pour nous dire, là, c'était mais il ne parlait pas de lui, c'était, mais pour dire, ben oui, parce qu'il disait pas qu'on ne peut pas prier deux heures, mais si vous n'avez pas le temps, ben, en fait, il disait, c'est un rendez-vous d'amour. Vous avez des rendez-vous avec le médecin, avec le dentiste, avec vos copains, vos copines. Autrefois, on avait des agendas, maintenant vous avez des smartphones ou autre chose, et vous notez parfois vos rendez-vous. Ben, à l'époque, on n'avait pas de smartphone, on n'avait pas d'ordinateur. Bon, il disait, prenez un petit carnet, votre agenda, et notez à quelle heure vous allez prier. Ça va être très pratique, il nous disait, il faut le prévoir. Si vous ne prévoyez pas dans votre journée une heure ou une demi-heure, ben vous ne la trouverez jamais. Bon, il faut le chercher. Et Pierre disait, comme on l'a aussi dit, évoqué, le but, l'objectif de la prière, c'est d'arriver à la prière continuelle. Mais sans se tendre, disait Pierre. Les amoureux font leur travail, mais ils pensent tout le temps à l'autre, sans arrêt. Eh bien, nous, on est amoureux de Jésus, et petit à petit, on pense à lui tout le temps, et c'est une joie continuelle. Et Pierre, qui aimait beaucoup Saint Jean, qui aimait beaucoup l'évangile de Saint Jean, le méditer sans arrêt, en particulier le chapitre 15, vous savez, là où Jésus dit « Je suis le sel et vous êtes le sarment » et « Demeurez en mon amour » qui a parlé, je crois, Gabriel. Eh bien, Pierre nous disait sans cesse « Demeurez ». C'est l'essentiel. Bon, je passe. Parce que Pierre était donc un adorateur. Il passait des heures et il nous invitait. Mais Pierre n'était pas qu'un adorateur. Je dirais, il était animé par le salut des âmes. Le zèle, il était animé par le zèle pour le salut des âmes. C'était un grand intercesseur. Il n'était pas replié sur lui-même. quand il priait. Et Pierre, qui priait beaucoup la nuit, priait beaucoup pour le monde de la nuit, le monde de la prostitution, tous les gens qui se perdent, etc. Et il aimait beaucoup Saint-Dominique aussi, le fondateur des Dominicains. Et Pierre nous dira, enfin on le voyait et il nous le disait, comme Saint-Dominique le faisait, qui pleurait la nuit en priant. Et Pierre reprenait la même prière de Saint-Dominique, qui disait à Jésus, « Mais Seigneur, que vont devenir les pécheurs ? Que vont devenir les pécheurs ?» Et Pierre, là aussi, a beaucoup de très belles citations. Je cite là, « Et Saint-Dominique disait, c'est Pierre qui parle, « Mais que vont devenir les pécheurs ? » Il passait parfois la nuit à crier, à supplier le Seigneur comme cela. C'est un amour vraiment très profond, très brûlant, qui nous prend. C'est comme cela qu'on avance, sinon on tourne en rond, on ne fait rien du tout. Le Seigneur nous demande tout cela, la conversion, l'évangélisation. Nous ne sommes pas des contemplatifs purs, mais on doit annoncer Jésus. Vous voyez, parce que c'est ça, quand on est pris par la charité, la compassion, on prie, mais on sait qu'il faut aussi l'annoncer. Il faut pas ça. Alors, on a des charismes différents, il y en a qui sont plus contemplatifs et d'autres qui sont plus missionnaires, mais on est tous appelés d'une façon ou d'une autre. Et donc, là aussi, on a parlé du feu qui brûle le cœur de Jésus, et c'est le feu de la Pentecôte qui...
Oui, 5 minutes.
Six minutes. J'ai mon smartphone, bon. Oui, évidemment, c'est un sang qui doit être en lui-même une heure. Bon. Et donc Jésus, oui, nous indiquait vraiment qu'il fallait se plonger dans le feu de la Pentecôte était un brasier. On parle toujours du cœur transpercé de Jésus, disait Pierre, mais je voudrais que vous vous souveniez que c'est lié à la Pentecôte. Lorsque Saint-Pierre sort avec la puissance de l'Esprit-Saint, qu'il commence à parler et qu'il dit aux gens, Dieu l'a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous avez crucifié, que nous avons crucifié, alors d'entendre ça, ils eurent le cœur transpercé. C'est le jour de la Pentecôte. Et précisément, c'est en demeurant auprès du cœur de Jésus, dans l'adoration eucharistique, que Pierre venait sans cesse puiser cette compassion ardente qui le consumait vraiment. Il était consumé d'amour. Ce qui animait Pierre, je le cite, est ce dynamisme de l'amour qui nous donne cette joie d'entreprendre pour sauver les âmes. Et Pierre ajoutait, nous sommes là pour sauver les âmes, et le Seigneur nous en demandera compte. Et l'Église nous rappelle sans cesse que la vocation première du tout baptisé, c'est la mission. Dans une très belle exhortation que celui qui parut en 1975, à cette époque-là, qui a été très mal reçue par l'Église de France, parce que à ce moment-là, il n'y avait plus d'évangélisation explicite. Le grand mot d'ordre, c'était l'enfouissement. Il ne fallait surtout pas parler de Jésus. Et donc, cette très belle encyclique de Paul VI, on en a très peu parlé en France. Pierre l'a beaucoup touché, il avait mis des articles des vivants. Et Paul VI rappelle que la vocation première de l'Église, ce qui est en jeu, c'est le salut des âmes. Et que la vocation première de l'Église est d'être missionnaire. Que tous les baptisés. Et moi, j'ose dire un mauvais jeu de mots. Si nous ne sommes pas missionnaires, nous sommes des missionnaires. Nous baissons les bras. Donc nous avons tous à annoncer Jésus d'une façon ou d'une autre. Certains dans la rue, sur les marchés, d'autres tout simplement au travail, peu importe. Donc, ce désir, vous voyez, de ne pas garder pour nous ce trésor du cœur de Jésus. Et ça, c'était... Et donc Pierre a fait feu de tout bois, j'ai pas eu le temps d'expliquer, mais si vous lisez les ouvrages sur Pierre, dans cette période très courte où il était responsable de la communauté, entre 73 et 85, le nombre d'initiatives apostoliques qu'il a lancées ou qu'il a confirmées dans tous les domaines... C'est insensé pour un homme de son âge et un homme de sa santé. Alors bien sûr, il s'appuyait sur ses frères et sœurs de communauté et sur d'autres, il n'était pas tout seul. Mais c'est quelqu'un qui sans cesse... Nous, il nous fatiguait déjà. Nous, on avait une très bonne santé. C'était toujours une idée nouvelle. Mais c'était pas... Justement, il nous disait, pour ne pas tomber dans l'activisme, il faut prier. Sinon, c'est de l'activisme ça ne porte pas de fruits. Mais en fait, vous voyez, son souci, c'était pas qu'on parle de lui, mais c'était comment, par la grâce qu'on a reçue, on va répondre aux besoins des hommes. Et c'est ce que... Alors, je n'ai pas le temps de vous parler, mais la mission, c'est vraiment essentiel, et ça peut prendre des formes très diverses. Et alors, je voudrais terminer par... évangéliser, c'est la vocation propre de l'Église et de tout chrétien. Être missionnaire est donc le fruit de la compassion qui est même et le fruit de l'adoration. Où est-ce que j'ai mis ça? Parce que j'aime vraiment finir par ça. C'est une image que je prends aussi, c'est une image qui m'est propre, mais bon, je ne dis pas que je l'ai inventée, mais moi qui m'a toujours frappé. Voilà, c'est que, vous voyez, parce que ça relie le cœur de Jésus. Comme je vous ai dit, moi j'ai eu l'occasion, j'étais là, donc j'ai fait la transition entre 85-86, avant d'être nommé à la Trinité, donc un moment crucial du pèlerinage, et je suis revenu après quelques années comme responsable du pèlerinage, donc j'ai eu l'occasion de pas mal réfléchir et de. Voilà, sur ce. Et ce qui m'a frappé, et encore plus maintenant que j'ai travaillé plus de 15 ans sur la vie de Pierre Boursin, c'est de voir que les intuitions de Pierre Boursin, que j'ai essayé de vous résumer très très rapidement, même si vous pouvez, ça vous paraît long, trois de coups, en fait, rejoignent vraiment le cœur de Jésus. Tout ce qui a inspiré les initiatives apostoliques et qu'il a développé au sein d'Emmanuel rejoignent la vie de tous les chrétiens. Et comme je vous l'ai dit, la plupart de ces intuitions prenaient la source dans la prière, mais aussi dans son amour pour le cœur de Jésus. Alors cette image, c'est celle-là. Nous avons tous un cœur. J'espère.
Ah oui ?
Un cœur. Parfois on a des baisses, les cœurs. Quand le cœur fonctionne bien. Mais on a un pacemaker pour essayer que le cœur marche mieux. Et le jour où le cœur s'arrête de battre, notre vie humaine, pas notre vie humaine s'arrête. Une autre vie commence. Mais donc c'est vital. Et dans le cœur humain, il y a deux mouvements. Et un mouvement de contraction et un mouvement de dilatation. Alors la contraction, c'est la systole, la dilatation, c'est la diastole, et ça permet au sang usé de venir se régénérer, et ainsi le sang régénéré vient sans cesse renouveler le sang du corps humain. Et c'est ainsi que, bon, je ne suis pas médecin, mais c'est ainsi que nous pouvons vivre. Et il vient diffuser non seulement dans notre corps, mais comme c'est une image, il vient aussi par ce double mouvement, le cœur de Jésus renouveler toute l'Église et le monde. Et il me semble que ça rejoint ces mouvements que Pierre. Le mouvement de contraction, c'est le mouvement d'intimité avec Jésus. On se retrouve seul à seul avec Jésus dans l'adoration. C'est le moment où on a besoin d'être régénéré. Et puis à ce moment-là, notre cœur s'ouvre à la compassion, et la dilatation, le sang va précisément venir renouveler l'Église et par le mouvement de l'évangélisation. Alors, frères et sœurs, au cours de cette retraite, on a essayé de contempler le cœur de Jésus afin que nous le prenions davantage encore comme le cœur de notre vie, et pour ceux qui le voudront, à la fin de la messe, il y aura donc cette possibilité de se consacrer au cœur de Jésus. Pierre nous rappelait, je voudrais vous demander qu'on aille, ce qu'on va faire après, se plonger dans cette fournaise ardente du cœur du Seigneur, pour qu'on lui demande qu'il nous donne tous ses fruits de charité, ses fruits missionnaires, et que nous soyons dans la joie et dans la paix parce que c'est avec lui qu'on le sera. Et finalement, n'oublions pas que nous sommes dans le temps de l'Avent, que nous sommes invités durant tout ce temps à contempler le cœur de Jésus, et nous pouvons, dans ce temps d'adoration, nous confier au cœur de Jésus qui bat dans la poitrine du petit enfant de la crèche que nous allons accueillir. N'oublions pas, hein, ce n'est pas le petit Jésus de plâtre qu'on va adorer. Bon, les crèches, c'est très beau, mais c'est là pour nous aider à nous représenter le cœur de Jésus en vrai, en chair. Donc nous, déjà, dans l'adoration, comme Pierre Bourset essaie de faire, essayons de nous représenter le cœur de Jésus qui bat dans ce petit cœur d'enfant qui va grandir. Et ce temps liturgique nous prépare à l'incarnation du Fils de Dieu parmi nous, mais aussi, nous l'oublions parfois trop souvent, à sa seconde venue dans la gloire. Parce qu'il est venu, Jésus, il y a 2000 ans. Donc il faut l'attendre. Mais ce qu'il nous demande, c'est de désirer qu'il vienne. Alors, au mieux, nous n'est pas pressé. Hein. Mais si, ce désir de la venue du Jésus, que son règne de Dieu arrive, pour que tous les hommes soient sauvés. C'est ce zèle, ce désir-là. Donc, dans le petit enfant de la crèche, on adore non seulement celui qui est venu, mais celui qui doit revenir dans la gloire, nous ne savons pas quand. Et c'est cela pourquoi nous devons être vigilants. Donc Jésus, comme on l'a entendu hier, aujourd'hui, dans une parole, une prophétie, « Je suis là jusqu'à vous, jusqu'à la fin des temps. » Jésus est sans cesse présent à nos côtés et il veut nous illuminer de sa présence, de la présence lumineuse de son cœur. Il veut nous réchauffer, nous renouveler par son divin cœur rayonnant d'amour et qui finalement, son cœur, c'est le joyau de la création. Alors, c'est cela que nous allons essayer de vivre dans ce temps d'adoration. Mais avant, nous allons peut-être prier cette prière que je vous invite à vous la présenter dans quelques mots. Pour ceux qui ne la connaîtraient pas. Donc c'est une prière qu'on a faite il y a quelques années, qu'on a simplement modifiée depuis qu'il est vénérable. Ça va faire un an qu'il est vénérable. C'est une prière que vous pouvez lire seul, en famille, si vous êtes marié, avec des amis. Cette petite prière, elle a deux parties. La première partie, donc je vous ai expliqué, donc moi je travaillais pour sa cause de béatification, et que maintenant qu'il est là, il puisse devenir bienheureux peut-être 5 jours. Donc la première partie, alors, dans cette prière, on a essayé de résumer un peu ce que je vous ai expliqué en très quelques mots, les principales grâces de la vie de Pierre Bourset. Donc la première partie, sur la page de gauche, résume un peu ce que je vous ai dit là. Et on va la lire, donc quelles étaient. Et puis dans la deuxième page, on se confie à l'intercession de Pierre, du vénérable Pierre Bourset. Que je dis, l'Église nous encourage à avoir recours à sa prière, à son intercession. Et donc, et c'est très important pour une cause de béatification, parce que j'ai déjà reçu des centaines de témoignages de grâce, et parfois qu'on va étudier certaines qui peut-être pourraient être considérées par, comme étant des miracles. Donc ça peut être des grâces toutes simples, des grâces aussi de guérison physique ou autre. Et donc vous voyez qu'à un moment donné, vers la fin, il y a trois petits points, il y a toute une ligne de points. Et donc ça veut dire qu'à ce moment-là, on peut s'arrêter, et quand on est seul ou avec d'autres, on donne l'intention que l'on veut, et puis on termine. Et au dos, donc vous verrez, donc il y a une adresse, c'est l'adresse où je suis en France. Et alors, un numéro de téléphone, c'est pas mon numéro personnel, mais c'est un numéro, une adresse. Donc si vous avez des témoignages liés à l'intercession de Pierre Bourset, merci de nous les envoyer à cette adresse et on vous contactera. Donc ce qu'on peut faire, ceux qui le peuvent se lever, les autres peuvent rester assis. Moi je vous propose qu'on va dire la prière, je vais dire 2-3 intentions, puis on va garder 5-10 secondes de silence et chacun ajoutera ses propres intentions. Intérieurement, bien sûr, et on terminera cette prière. Seigneur Jésus, nous te prions pour la béatification de Pierre Bourset, animée à la vie.
spirituelle et apostolique. Par son intercession, obtiens-nous, Seigneur, la grâce de te faire pleinement confiance et de te servir généreusement et de faire ta volonté. Donne-nous un cœur ouvert à l'adoration, débordant de compassion pour tous les hommes, et embrasse-nous du feu de ta charité pour l'évangélisation du monde. Par l'intercession du vénérable Pierre et au Saint, nous te demandons instamment, Seigneur, d'accorder de nombreuses faveurs à tous vos frères et sœurs en humanité, spécialement de soutenir les pauvres et les blessés de la vie, de consoler les affligés, de fortifier les faibles, de guérir les malades. Nous te prions en particulier pour le pape et toute l'Église, pour tous les chrétiens, pour les chefs d'État, pour la paix dans le monde, pour tous ceux qui souffrent de la guerre, des catastrophes naturelles, de tous ceux qui sont seuls et malades. Et chacun ajoute dans son cœur que les intentions qu'il désire. Seigneur Jésus, nous te prions de révéler à tous ceux qui sont éloignés de toi ou qui ne te connaissent pas encore l'amour infini de ce cœur qui nous est.